Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition du journal sur Radio Kapi. Voici le principal sujet que nous allons aborder. Thérèse Kayikwamba Wagner alerte sur la situation critique dans l'est de la RDC. Violations persistantes, tensions croissantes et paix hors de portée lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. L'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac dresse également un tableau préoccupant du conflit tout en saluant les récents avancées diplomatiques. Dans les localités de Kabamba et Kacheke au sud Kivu, après 48 heures de combats violents entre le Wazalendo et le rebelle AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise, la situation est relativement calme. Ce jeudi, plusieurs morts sont à déplorer parmi les belligérants et la population a déserté la région pour se mettre à l'abri. Pour célébrer ses 10 ans d'existence, l'agence de zone économique spéciale ouvre les portes de son site de Maluku au public, offrant une occasion unique de découvrir les réalités des productions industrielles de la zone. Ogi Bolanda Menga, directeur général de l'AZES, est notre invité du jour. Il parlera des avancées réalisées dans les installations des entreprises qui ont choisi d'investir dans la zone économique de Maluku. Ne ratez pas cet entretien exclusive sur Radio Kapi. C'est tout pour les titres. Gisèle Cage vous présente ce journal. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a exprimé son inquiétude face aux violences persistantes dans les territoires occupés du pays lors de la 9899e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue hier à New York. Elle a dénoncé les atrocités commises par le rebelle contre les civils, y compris les exécutions sommaires, les enlèvements, les enrôlements forcés et les violations de droits fondamentaux avec le soutien de l'armée rwandaise. Découvrez les déclarations de Thérèse Kayikwamba dans cet extrait.
Depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'un million et demi de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention.
Restant à New York, lors de son intervention, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Yang Xia, a exhorté les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU à agir de bonne foi pour parvenir à une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Selon cet émissaire onusien, les négociations politiques doivent rapidement se traduire par une amélioration concrète des conditions sur le terrain, tant attendues par les populations, notamment les femmes de Goma, Bukavu et Beni, qui aspirent à la fin des violences et à arriver sans entrave de l'aide humanitaire. Écoutez le propos de Yang Xia.
Il est important que les parties fassent preuve de bonne volonté et soient disposées à faire des compromis lors des négociations pour une résolution durable du conflit en cours dans l'est de la RDC. Dans ce contexte, la nouvelle disposition affichée par le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec le M23 constitue une étape importante vers une sortie de crise. Face à la gravité de la crise, obtenir un cessez-le-feu immédiat et sans condition et s'accorder sur la réouverture des couloirs humanitaires devrait, à mon sens, constituer la question primordiale à l'ordre du jour des discussions entre toutes les parties concernées, y compris les femmes et les jeunes que nous souhaitons voir compter parmi les parties au dialogue. Les négociations politiques devraient se traduire rapidement par une transformation favorable des réalités sur le terrain.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, sensibiliser les populations locales, notamment les victimes et les survivants des atrocités, à comprendre et à s'approprier le mécanisme informel des justices transitionnelles en RDC, c'est l'objectif d'une série de sensibilisations menées par la coalition des groupes des victimes. Cette initiative permet à ces groupes d'être informés sur les piliers de la justice transitionnelle tels que le droit à la vérité, le processus pénal, la réparation et les garanties de non-répétition. Selon Dieuvi Kubuya, membre du Parlement des jeunes du Nord Kivu et acteur de cette vulgarisation, le manque d'informations sur la justice transitionnelle affecte l'engagement dans le processus de plaidoyer pour sa mise en œuvre. Écoutons-le.
Nous faisons également la vulgarisation des mécanismes informels qui donnent l'avantage notamment d'utiliser les langues locales, d'avoir cette proximité géographique ainsi que la pertinence culturelle mais aussi les moindres coûts. Et ce sont des avantages en tout cas non négligeables qui peuvent amener à ce que nous puissions faciliter l'accès à la justice à ces groupes de victimes des crimes et graves violations des droits humains en RDC et pour faire de la réconciliation et de la paix durable une réalité dans notre pays. Nous faisons aussi des sensibilisations dans ces différents groupes et pour l'instant nous avons ciblé 18 groupes au total qui vont avoir 2 séances de sensibilisation par groupe pour que ces victimes et ces survivants et survivantes soient au cœur du processus de justice transitionnelle.
Cette coalition rassemble plusieurs groupes et associations des victimes de graves violations de droits humains, ainsi que des associations qui les accompagnent. En Ituri, la police nationale congolaise a frappé fort hier mercredi en interpellant 31 présumés voleurs dans la ville de Bunia. Cette opération de bouclage menée par les services de renseignement et de sécurité a ciblé les quartiers Limbabo, Sukisa, Bankoko et Délé. Selon un communiqué de la police, l'objectif était de démanteler des groupes criminels responsables de la résurgence de l'insécurité dans la ville. Les biens volés ont été récupérés. Le service de sécurité appelle la population à redoubler de vigilance. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
Parmi les présumés voleurs interpellés lors de cette opération de bouclage figurent des bandits des grands chemins, porteurs d'armes blanches et des fumeurs de chanvre. La police urbaine dit avoir récupéré une moto Bouda Bouda, 2 écrans de télévision de 32 pouces, diverses chaînettes à garantie et en argent, 9 téléphones Android, 3 postes de radio ou encore un lot de 124 faux permis de conduire de la division provinciale de transport, voies et communications. Ces objets ont été saisis auprès des présumés voleurs interpellés par la police. C'est depuis plusieurs semaines que l'insécurité est répartie à la hausse dans la ville de Bunia. Pour y faire face, la police recommande entre autres aux propriétaires des engins roulants d'éviter de collaborer avec certains malfrats à l'air facilitant la mobilité, aux tenanciers de lieux de vente de chanvres et boissons prohibées d'abandonner ces activités sous peine de poursuites judiciaires. La police promet aussi de renforcer la collaboration civilo-militaire pour la sécurité des personnes et leurs biens, tout en évitant des violations des droits humains pendant les opérations contre la criminalité urbaine. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
En lien avec les tensions armées dans le Kivu, au sud Kivu, les localités de Kabamba et Kacheke, situées dans les territoires de Kabare et Kalehe, ont connu une accalmie éphémère ce jeudi. Et selon nos sources à Katana, des combats violents ont opposé les Wazalendo aux rebelles de l'AFC AM23, soutenus par l'armée rwandaise pendant 48 heures. Les explosions ont cessé temporairement hier soir. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées de deux côtés dans ces localités désertées par la population. Le point avec Étienne Lissumbu.
La situation de ces jeudis est relativement calme, mais tout peut changer d'un moment à l'autre, rapportent les observateurs indépendants présents dans la région. Les Wazalendo, avec quelques militaires résiduels des FARDC dans ces agglomérations, se sont repliés vers les hauteurs de Kabamba et Kacheke après 2 jours d'intenses combats, ajoutent encore nos sources qui confirment la présence des M23 le long de la route nationale numéro 3, route qui mène vers Goma en traversant le territoire des Kalehe dans le sud Kivu. Ces derniers ont renforcé leur position en hommes, en armes et en munitions opérations depuis dimanche dernier. C'est ce jour-là que les combattants patriotes d'Iwazalendo avaient récupéré brièvement l'aéroport de Kavumu avant d'y être chassés des forces par les M23 qui avaient déployé un effectif impressionnant de ces hommes venus de Bukavu, les uns par route, les autres par voie lacustre.
Au Maniema, une formation dynamique est en cours pour les cadres et agents de l'environnement axée sur la mobilisation des recettes dans ces secteurs cruciaux. Pendant ces 4 jours d'atelier interactif, les participants reçoivent des recommandations pratiques pour optimiser leurs méthodes de travail et maximiser leurs recettes. Écoutons le ministre provincial de l'environnement, Francis Masumbuko Lutaka, qui partage son enthousiasme et ses perspectives au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de terminer la formation des cadres et agents de l'environnement sur la mobilisation des recettes. À l'issue de ces assises, nous recommandons aux agents et cadres du secteur de l'environnement ce qui suit. Ils doivent, en premier lieu, identifier toutes les activités liées aux actes taxables dans leurs entités respectives. Et cela, ils vont le faire en termes statistiques. Et ensuite, nous leur recommandons d'accroître dans leurs entités les recettes de la province. Et aussi dénoncer toutes les manœuvres tendant à freiner la maximisation des recettes. Éviter à minorer les taux d'actes prévus dans la nomenclature provinciale, notamment dans les budgets de l'exercice 2025. Et éviter aussi des arrangements avec les assujettis sur terrain en termes de corruption. Tout celui qui sera pris main dans le sac, il sera sanctionné par rapport à l'esprit de la loi. Parce que la province en a souffert autant, cette fois-ci, on voudrait voir une croissance un peu sur les recettes de la province du Maniema, notamment dans le secteur de l'environnement.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Retour au Sud Kivu, où 250 enseignants retraités vivent une situation déchirante, privés de leur pension depuis la fermeture des banques suite à la prise de Bukavu par le rebelle de l'AFC M23. Ces enseignants, tous issus de l'école primaire, n'ont pas reçu leur pension de mois de février et mars 2025. Cette situation exacerbe leur vulnérabilité, eux qui ont consacré leur vie à l'éducation de la jeunesse congolaise. Ces dignes fils du pays qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes se retrouvent aujourd'hui dans la précarité insoutenable. La mesure touche particulièrement les enseignants affiliés à la Tembe, succursale de Bukavu. Leur association plaide auprès de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État pour trouver une solution palliative. Écoutons Gadira Joseph, président de l'association des enseignants retraités du Sud Kivu.
Sur 245 enseignants retraités de la province du Sud Kivu, tous de l'école primaire, une soixantaine affiliés à la Tembe n'ont pas encore touché leur pension de retraite du mois de février et mars 2025. Ces enseignants retraités souffrent de la famine et des manques de soins médicaux. Ces enseignants ne sont pas payés car ils touchent mensuellement au guichet et n'ayant pas surtout des cartes bancaires. D'autres banques comme la Roa Bank, la EBN Bank, BOA et Kiti Bank ont payé les enseignants retraités à travers les canaux de paiement numérique. Ils habitent pour la plupart dans les territoires ainsi que dans la ville de Bukavu. La RSKI demande à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, en sigle CNSAP, dont ils dépendent, de faire un effort spécial afin de trouver une solution à ces problèmes.
Bonne nouvelle pour les habitants de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Après 6 jours plongés dans l'obscurité totale à cause d'une coupure générale d'électricité, le courant a été rétabli dans certains quartiers depuis hier matin. Prosper Bakoukou, directeur provincial de la SNEL Grand Bandundu, explique que cette interruption a été causée par des miliciens Mobondo qui ont saccagé la station de Tobakita sur la route nationale numéro 17. Il assure que les efforts se poursuivent pour rétablir l'électricité dans toute la ville et plaide pour la sécurité de ce poste. Écoutons l'ingénieur Prosper Bakoukou au micro d'Irenbo Maluzolo.
Comme vous l'avez constaté, depuis le mercredi soir que nous avons connu une coupure, cette coupure était due à la coupure d'une phase. tronçon Bandundu Kinshasa. Et nous avons pu déployer nos équipes pour vérifier chaque pylône. Et ces équipes venaient d'arriver ce matin à Tobakita. C'est à côté du village Kinsele. Alors, par le passé, nos techniciens qui vivaient là-bas, ils étaient menacés par des inciviques et Mobondo. C'est comme ça qu'ils avaient abandonné le poste pour des raisons de sécurité. Alors, ce matin, quand les équipes étaient arrivées là-bas, ils ont constaté que bel et bien, le poste était saccagé. C'est à partir de ces inciviques, les actions qu'ils avaient menées de sabotage de ces postes, et c'est ce qui avait coupé l'électricité dans la ville de Bandundu. Et ils ont fait quand même le nécessaire pour voir comment trouver une solution palliative pour fermer les disjoncteurs. Et actuellement, l'électricité est bel et bien dans la ville de Bandundu. Nous allons voir comment rétablir à travers toute la ville. Notre directeur général avait saisi déjà le gouvernement par rapport à cette situation, puisque c'est le gouvernement qui est censé sécuriser la population. Je crois que les autorités du pays ne vont pas laisser la chose comme ça. Ils vont prendre toutes les mesures.
La société NPERF, entreprise française spécialisée dans la fourniture des données participatives pour les performances télécom à l'échelle mondiale, vient de publier son dernier rapport sur la qualité de la connexion Internet mobile en RDC. Orange, CI sont en tête, détrônant RTL pour l'année 2025. RTL prend la deuxième place, suivie d'Africel qui complète le podium. Ben Tchoukota nous en dit plus.
Quand on parle de la connexion Internet mobile à RDC, c'est désormais Orange qui détrône RTL selon les données de NPRF avec un score de 28 088 points. L'entreprise française de collecte des données s'est attelée sur le critère comme vitesse de téléchargement qu'on appelle débit descendant, performance de navigation, qualité pour regarder des vidéos ou streaming vidéo et tant d'autres. Promis en 2024, RTL vient cette fois en deuxième position avec un score de 24 868 points. L'opérateur affiche quand même le meilleur débit descendant et le meilleur débit montant ainsi que la meilleure latence. Africel complète le podium avec un score de 20 442 points. Vodacom se situe à la quatrième position avec un score de 16 178 points. Notez que la même société avait publié la semaine dernière son rapport sur la connexion Internet fixe en RDC. Canal Box arrivait en tête. Orange conservait sa deuxième place dans ce classement et Vodacom qui clôturait le podium.
Actualité internationale.
L'administration du président américain Donald Trump a menacé mercredi d'interdire à l'université américaine de Harvard d'accueillir des étudiants étrangers si elle n'accepte pas de se soumettre à un contrôle en matière d'admission, d'embauche et d'orientation politique, si Harvard ne peut pas prouver qu'elle est en pleine conformité avec ses obligations de déclaration. L'université perdra le privilège d'inscrire des étudiants étrangers, a écrit le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué.
L'invité.
À l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence, l'Agence des zones économiques spéciales, AZES, ouvre les portes de son site de Maluku au public, permettant à chacun de découvrir les réalités de production industrielle de la zone. Ogi Bolandaminga, directeur général de l'AZES, est notre invité du jour. Il nous explique au micro de Askin Zibia Tayoro les avancées réalisées dans les installations des entreprises qui ont choisi d'investir dans la zone économique de Maluku.
Monsieur Oki Bolanda, quelle a été l'importance d'ouvrir un peu la porte de la zone économique au public?
Oui, merci beaucoup. C'est en fait dans le cadre des célébrations que nous sommes en train de faire des 10 ans de l'AZES. Mais aujourd'hui, cette étape, c'était pour faire voir de manière pratique que les zones économiques spéciales, ce n'est pas seulement de la théorie. Nous avons un cadre juridique, nous avons une loi qui est là, nous avons une agence qui existe. Nous avons aussi des projets des AZES qui sont en cours. Comme ici à Kinshasa, il y a des projets de Maluku et les projets de Kinma. Donc la zone de Maluku et la zone de Kinma Debo qui sont déjà là, nous avons prévu d'amener des participants, de venir voir, de vivre, de voir ce que nous sommes en train de faire dans la zone économique spéciale. Nous avions commencé la journée par la zone de Kinma Debo, du côté de Nsele, et nous sommes en train de finir ici au niveau de la zone pilote, ici à Maluku.
Voilà, ici sur le site de Maluku, qu'est-ce qui est déjà fait?
Ici le site de Maluku, comme vous êtes en train de voir, la première chose c'est que c'est un site qui est sécurisé. C'est clôturé. À l'intérieur, nous avons déjà mis les infrastructures de base comme la voirie interne est là. Nous avons l'électricité. Nous avons déjà tout ça. Nous avons un bâtiment de guichet unique qui est là. D'ailleurs, là où nous sommes en train de parler maintenant, c'est le bâtiment de guichet unique de l'Agence économique spéciale. Et puis, il y a les entreprises qui s'installent. Ici, nous avons déjà signé avec 13 entreprises. Et il y a 2 qui se sont installées, qui ont déjà commencé la production. Et il y en a d'autres aussi qui vont venir au courant de mois à venir.
Vous pensez que l'espace qu'occupe aujourd'hui l'agence de zone économique, ça va absorber toutes les demandes des entreprises compte tenu de l'espace?
Malheureusement non, l'espace n'est pas très grand. Nous recevons beaucoup de demandes, malheureusement. Depuis que les chefs de l'État étaient venus inaugurer la zone de Maluku en 2023, nous recevons encore beaucoup plus de demandes parce que les gens ont compris que c'est vraiment une réalité. Malheureusement, l'espace ne s'y prête pas parce que sur l'espace total dont nous disposons, il y a une grande partie qui est encore occupée par des gens qui devraient être expropriés. Mais je vous assure, exproprié au Congo, c'est la croix et la bannière, c'est toujours pas facile. En tout cas, l'espace que nous avons jusque-là ne nous permet pas vraiment de bien évoluer. Mais au moins, les entreprises qui ont déjà signé avec nous sont en train de se préparer pour commencer leur projet d'investissement dans la zone de Maluku.
Alors, il y a deux entreprises qui sont déjà opérationnelles, c'est lesquelles?
Bon, oui, nous avons la première entreprise, c'est l'entreprise Saphir Céramique, qui produit des carreaux et des faïences. Donc aujourd'hui, à Kinshasa ici, nous avons des carreaux de bonne qualité qui sont produits ici. Et puis, c'est même déjà exporté maintenant, ça part déjà à Brazzaville. Nous avons aussi la société Varun Pepsi, qui produit la marque Pepsi sur au Congo. Ils sont installés ici à Maluku, ils produisent l'eau, ils produisent les boissons sucrées, les boissons gazeuses. Donc ce sont des entreprises qui sont déjà opérationnelles. Mais à part ça, il y a l'entreprise Sopaco qui est en train de s'installer. Le terrain est déjà prêt. Nous attendons seulement l'arrivée de matériel pour que les travaux de construction puissent commencer.
Sopaco va produire quoi?
Sopaco, c'est une entreprise qui va produire des huiles végétales, margarine et d'autres choses, un peu comme ce qui est fait à la Massapco au centre-ville.
Alors, monsieur le DG, en termes d'emploi, vous pensez qu'avec les débuts d'installation de différentes entreprises, vous pensez que le Congolais se retrouve?
Oui, de plus en plus, je vois que vous avez vous-même suivi les témoignages du chef coutumier ici. Il dit que la population de Maluku est contente parce que leurs enfants commencent à trouver du travail. C'est vrai, nous avons signé avec 13 entreprises. Aujourd'hui, il y a 2 qui fonctionnent déjà. Sur les 2, nous n'avons pas moins de 750 personnes qui travaillent déjà ici, de manière directe, sans compter les emplois indirects. Quand vous allez prendre encore les autres qui vont venir, nous estimons que nous pourrons arriver à atteindre même 15 000 personnes ici à Maluku.
Alors, qu'est-ce qui retarde l'installation des autres entreprises, concrètement?
Ce qui retarde l'installation des entreprises, c'est que les terrains de Maluku, c'est un terrain qui est vallonné, qui demande beaucoup de travaux de terrassement. Donc ça demande beaucoup de moyens. Les entreprises sont aussi à la recherche de moyens financiers pour pouvoir prendre ça en charge. Une autre chose, c'est que quand nous validons les dossiers des entreprises, les entreprises présentent des listes de matériel à importer. Ces listes de matériel doivent être validées par le ministère des Finances, mais malheureusement, ça prend quand même du temps. Donc il y en a aussi qui souffrent à cause de ça.
Ici, dans la zone économique spéciale, on voit bien que c'est vraiment un partenariat public-privé qui s'installe. Vous pensez que pour un début, est-ce que l'État congolais va se retrouver?
L'État ne poursuit pas les mêmes objectifs que les entreprises privées qui doivent chercher à gagner 1 franc, 2 francs. Non, l'État a aussi une satisfaction qui est économique, c'est-à-dire que voir la population s'épanouir. Quand les gens trouvent déjà du travail, pour l'État, c'est déjà un bénéfice.
Merci Ogi Bolanda. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité, Ogi Bolanda Menga, directeur général de l'agence de zone économique spéciale, s'entretenait avec Askin Zibiata Yoro. C'est la fin de ce journal, mis en onde par Mimi Kindou, supervision par Blaise Jordan Shindani Kambala et présentation par Gisèle Cage. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de votre attention. Restez avec nous. Le programme de Radio Capi se poursuit. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.